Voilà, alors nous continuons notre série d'études dans l'évangile de Marc. Et donc nous sommes au chapitre 10, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, et vous vous souvenez, il y a 15 jours, on était là dans ce passage du verset 35 à 45. Nous avons lu ce passage, mais le verset 45, je n'ai pas développé. Hein, donc, en fait, je vais relire les versets 35 à 45, mais nous allons nous concentrer sur le verset 45. Donc, je commence la lecture au verset 35. Dit les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur, votre serviteur. » Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. C'est ce dernier verset, le verset 45, car le Fils de l'homme, donc lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien sûr, ici, le contexte, c'est tout ce passage que nous venons de lire. Et dans ce passage, bien sûr, il y a deux disciples en particulier, et non des moindres, hein, de Jean et Jacques, c'est ceux qui sont toujours mentionnés, hein, chaque fois qu'il y en a au moins trois, c'est eux qui ont été présents. Et ils s'approchent de Jésus pour demander les places d'honneur dans le royaume. Et en fait, ils sont en train de demander ce pour quelque chose qui n'est pas à eux de demander. Hein. Comme au verset 40, Jésus leur dit, « Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, il sera donné à ceux à qui cela est réservé. » Il a dit, c'est pas comme ça, c'est pas le premier qui arrive, celui qui a le premier qui a l'idée, tout d'un coup il a la place. Il a dit, Dieu est un Dieu qui est organisé et la place est déjà réservée pour quelqu'un. Donc ce n'est pas parce que nous sommes arrivés les premiers, c'est pas parce qu'on s'est mieux comporté que les autres que tout d'un coup on a les places. Les choses ne se passent pas au ciel comme ça se passe sur terre. Hein. À l'école peut-être, vous voyez, le plus rapide c'est lui qui est le premier. Mais dans le ciel, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de celui qui arrive le premier, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est pas celui qui bouscule le plus. Je suis monté à Paris la semaine dernière et j'ai vécu encore le métro et ça bouscule et ça pousse. Et puis il y en a qui rentrent et il y en a qui ne rentrent pas parce qu'il y avait un problème. C'est pas comme ça dans le ciel, hein, heureusement pour nous tous. Dieu dans sa préscience et dans sa grâce, Dieu a déjà mis en place son royaume. C'est déjà tout arrangé. Il n'est pas en train de dire, oh, Bon, j'attends, je cherche quelqu'un, c'est qui le meilleur? Non, non, c'est pas une question. Il a déjà tout mis en place. Et il sait, parce qu'il sait tout d'avance, eh bien, il peut déjà mettre en place. Et donc, et tout cela, s'il y a une place pour quelqu'un dans la gloire, c'est rendu possible seulement parce que Christ est mort sur la croix. Hein, sinon, ce ne serait pas possible. Ça faisait autant partie du plan de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que Christ est mort pour nous qu'il y a, il y a même accès, hein, à la gloire de Dieu et dans le royaume de Dieu. Et donc, ce que nous voulons voir dans le premier temps ici, c'est dans ce passage, c'est ce que j'ai commencé à souligner la dernière fois, mais ce contraste entre l'attitude des deux disciples et l'attitude de Jésus. Hein, c'est ça que l'on veut voir. Et donc, première chose, c'est ce contraste flagrant. Hein, il est immense. C'est le comportement de ces deux disciples et puis l'attitude de Jésus. Lorsqu'on regarde le verset 35, eh bien, nous avons des disciples qui viennent à Jésus, qui disent: Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce qu'on va te demander. C'est peut-être la prière la plus égoïste de la Bible. Parce qu'ils tiennent ni compte de ce que Dieu veut, ils ne tiennent pas compte du plan de Dieu, ils ne tiennent pas compte des autres. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Hein, bon, je crois qu'ils ne sont pas les premiers ni les derniers à avoir prié de cette manière. Hein. Et parfois, nous prions aussi, Seigneur, moi. Hein, c'est moi le centre, fais tout pour moi, arrange tout pour moi, tant pis pour les autres, mais pour moi, il faut que tu l'arranges. Hein, c'est une prière égoïste. Ce qu'elle donne à Dieu, hein, pourtant Dieu est souverain, ils l'ont appelé maître, et puis tout ce qu'il lui donne comme choix, c'est toi qui choisis lequel va être à droite et lequel va être à gauche. Mais sinon, nous, on a décidé déjà. Hein, c'est un peu la question de nous, on a pondu l'œuf, maintenant c'est à toi de couver. Hein, nous, voilà notre plan. Hein, combien de fois nous avons prié à Dieu, on a dit: Dieu, voilà, j'ai un plan, voilà, j'ai réfléchi, tout ça. Voilà. Tu fais comme je t'ai dit. Voilà. Ça sera simple pour toi. Et puis, puisque tu peux tout faire, alors tu vas le faire comme je t'ai dit. Ça, c'est des prières égoïstes. Et c'est une attitude que Jésus reprend. Ces deux disciples, ils cherchent en plus, ils cherchent leur intérêt par-dessus les autres. Et puis, ce qui est pire encore, c'est qu'ils cherchent des places d'honneur. Mais en plus, ils veulent être non seulement honorés, mais ils veulent être au-dessus des autres. Je veux être, pas seulement, fais-moi quelque chose, mais fais-moi plus que tu fais aux autres. Hein, et combien de fois, parfois, nous avons de telles pensées. Et puis, Jésus désapprouve gentiment, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans Jésus. Parce qu'ils sont en train de demander, il aurait pu leur dire, mais ce que vous demandez, mais c'est égoïste, sortez d'ici, je ne veux pas vous entendre, c'est terrible, il aurait pu parler comme ça. Et il dit, vous savez pas ce que vous demandez. Et normalement, si Jésus répond comme ça, il devrait comprendre qu'il y a un problème, hein, dans leur manière de dire. Ils devraient comprendre qu'il y a un petit problème là. J'espère que moi, si jamais je fais une prière comme ça, et puis le Seigneur me répond et me dit: mais tu ne sais pas ce que tu demandes. J'espère que je vais m'arrêter et dire: bon, excuse-moi, peut-être. Mais eux, non, ils foncent droit devant. Il leur dit: est-ce que vous croyez que vous pouvez boire la coupe, c'est-à-dire la souffrance que je vais avoir? Est-ce que vous croyez que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? C'est ça qu'il a parlé dans le jardin de Gethsémané, de boire la coupe et la boire jusqu'à la lie entièrement. Et puis il a dit, vous pourrez être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. C'est, il parle d'un passage particulier. Et normalement, quand Jésus pose une telle question, la réponse naturelle serait non, ou peut-être pas, ou peut-être on s'est trompé, excuse-nous. Ça, c'est son attitude. Mais eux, non. Oh non, oui, nous le pouvons. Il leur a déjà dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand ils parlent de la coupe, ils parlent du baptême, ils n'ont aucune idée de quoi il fait référence. Et il dit, oui, nous le pouvons. Et puis, leur requête était préméditée, hein, parce que, comme nous l'avons vu dans l'évangile de Matthieu, c'est qu'ils étaient venus avec leur maman aussi. Et la maman, elle a demandé la même chose. Donc, ils avaient discuté ça entre eux, ils avaient discuté ça avec maman, et tout le monde avait la même requête, et tous sont venus à Jésus. C'était calculé, c'était pas juste quelque chose qui a échappé, dire oh, excuse-moi. Non, c'était vraiment, ils y croyaient, ils avaient tellement réfléchi à la chose, qu'ils sont convaincus, ils se sont convaincus que c'était vraiment pour eux. Et mais vous savez, des fois, on pense à quelque chose tellement longtemps qu'on finit par le croire, même si ce n'est pas vrai. Hein. On le pense, on le désire, on croit que c'est juste. Mais des fois, on fait ça avec Dieu aussi. Et pourtant, Jésus, il répond gentiment. Hein. Il répond gentiment. Et il va toujours nous répondre gentiment. Ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas renvoyé que ce qu'on a dit était bien. Hein. Jésus est un Dieu de grâce et il nous reçoit. Ce qui est extraordinaire, c'est que ses disciples, en présentant la prière, ils ont dit maître. Quand on dit maître, ça veut dire c'est toi qui décides. Ils ont employé le mot, mais après il n'y avait rien ou il n'y avait pas une chose dans la requête qui montre qu'ils le reconnaissent comme maître. Et au verset 45, c'est ça le contraste entre cette attitude du verset 35 et puis après ce que Jésus dit au verset 45. Au lieu de leur dire, écoutez, vous êtes complètement à côté, vous trompez, vous êtes orgueilleux, vous êtes ceci. Eh bien, il va parler de lui-même. Il dit, moi, mais vous savez. Et il dit, au 45, il dit, le Fils de l'homme, il parle à la troisième personne, donc impersonnel. Il va dire, moi, je suis venu. Non pour servir, mais pour être servi. Non, il va parler à l'impersonnel, il va parler à la troisième personne. C'est l'humilité déjà. Lui qui est le maître, lui qui sait tout, il va parler à la troisième personne. Il va dire, le Fils de l'homme, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Il va dire, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, hein, c'est ça que vous cherchez, mais pour servir. Et en plus, donner ma vie en rançon pour beaucoup. Sa mission, il dit, vous m'appelez maître, mais moi, je suis venu non pas pour chercher la place d'honneur, je suis venu pour servir. Et servir au point de donner ma vie pour les autres. Donner, je vis, j'existe pour les autres. Quel contraste d'attitude. Hein, normalement, le disciple doit suivre le maître. Mais bon, il n'y a aucun rapport. Un contraste. Ils sont sur deux voies, deux pensées différentes, deux attitudes différentes. Et quand il y a ça, on ne peut pas dire qu'il y a communion. Hein, communion, ça veut dire qu'il y a la même pensée. On partage nos pensées. Mais aussi, il nous dit dans Philippiens 2:9, parce que Jésus a été fidèle jusqu'à pas seulement mourir à soi-même, mais il est mort même physiquement. Il s'est donné. Et au verset 9, Philippiens 2, 9, il nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'un nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est parce qu'il a servi. C'était parce qu'il était prêt à aller jusqu'à l'extrême dans son service que Dieu l'a souverainement élevé. C'est toute une autre attitude. Nous avons mis en valeur le contraste donc, entre le verset 35 et le verset 45, deux attitudes complètement séparées. Maintenant, c'est à nous de voir aussi maintenant dans lequel nous nous retrouvons, ou peut-être parfois. Hein, parfois, nous avons entretenu des pensées du type verset 35, alors que nous devrions avoir une attitude du type verset 45. Nous avons vu le contraste flagrant. Maintenant, nous voulons voir ce Jésus parle de ce service désintéressé. C'est-à-dire, il ne cherche pas son intérêt, mais il cherche celui des autres. Vous savez, le mot service, rendre un service, quand je rends service à quelqu'un, c'est-à-dire, je fais quelque chose qui aide l'autre. Sinon, je n'ai pas rendu service. Si Benoît m'appelle et puis il me dit, écoute, je manque de pain, est-ce qu'en venant, tu peux ramener du pain? Et moi, je lui ramène des oranges, je n'ai pas rendu service, je n'ai pas aidé. J'ai peut-être fait un geste gentil, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, servir, c'est quand c'est utile. Hein? Donc, si je vais rendre service à Dieu, je vais faire quelque chose qui est utile à lui, pas à moi. Hein? Ce n'est pas parce que moi, j'aime des oranges, j'amène des oranges, même s'il a besoin du pain. Non, non, je dois faire quelque chose qui lui rend service. Et donc, quand Jésus dit « je suis venu pour servir », ce n'est pas « je suis venu pour faire des belles choses ». Non, je suis venu pour répondre à un besoin. Et le grand besoin de l'être humain, de l'humanité, c'était à cause de notre péché. Hein, nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. Il n'y en a pas un d'entre nous qui peut prétendre être sans péché. Il n'y en a pas un d'entre nous qui peut se présenter devant Dieu et dire « écoute, je t'invite à me recevoir ». Parce que je suis tellement bon, tellement gentil. Peut-être que je suis meilleur que certains, mais je ne suis pas à la hauteur de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, je ne suis pas à la hauteur de Jésus-Christ quand il était au plus bas point, hein, quand il était homme. Ça, c'est quand il était le moins glorieux, son plus bas point, où il avait le moins de qualité, le moins de pouvoir, le moins de... Je ne suis pas aussi bien que lui. Alors comment être suffisamment bon pour être à la gloire de Dieu? Et donc Jésus répond à un besoin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Job chapitre 33. Job chapitre 33. Il y a un passage ici qui est très, très intéressant. Vous savez peut-être que le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Hein? Donc, c'est le premier. Donc, déjà, dans ce livre qui a rédigé le premier, donc avant même Moïse, eh bien, il y a déjà des pensées de rançon et de service. Donc, je vous invite à lire dans Job, chapitre 33. Ici, Job exprime une pensée. Son ami Élihu qui parle et qui exprime une réalité que Job approuve. Donc, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 27. Hein. Donc, je commence à lire au verset 19. Alors, je lis, puis après je fais des commentaires. Il dit « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. » Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre eux, les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse, car j'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il s'adresse à Dieu, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Donc reprenons doucement ici le verset. On a comme l'impression qu'il est en train de parler d'une personne qui a été malade pendant assez longtemps, en fait, qui est devenu très malade, au point que sa chair est très diminuée. On peut voir tous les os, on peut les sentir, et c'est un squelette vivant, hein, dans un sens. Et on le voit mourir, tout doucement, on le voit mourir, et il est sur le point de mourir. L'image, c'est il a déjà une jambe dans la fosse, hein, dans la tombe. Et on a l'impression que c'est le produit d'une longue maladie. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit quand même quelques détails étonnants, parce que, d'abord, il dit, il envoie un ange, et un ange annonce, il a dit, j'ai trouvé une rançon. Une rançon, c'est une somme qu'on paye pour délivrer quelqu'un. Mais quelqu'un qui est malade, on ne paye jamais de rançon. C'est pour quelqu'un qui a été kidnappé, quelqu'un qui a été, il y a eu un enlèvement. Et alors, pour rançonner la personne, il faut payer une somme pour le libérer. Mais pas pour un malade, on ne paye pas de rançon pour un malade. Donc il y a un petit détail là supplémentaire. Et puis après, ce qui est étonnant, c'est qu'il nous dit qu'après avoir été délivré, il retrouve sa joie, il retrouve sa force, il retrouve sa jeunesse. Mais dans son chant, après il chante un chant de louange. Mais au verset 27, il dit « J'ai péché, j'ai violé ta justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. » La maladie n'est pas le résultat du péché. Il dit « J'avais péché et tu m'as délivré. » en fait, il est en train de... Oui, c'est dans un sens, c'est l'image de celui qui est malade et qui est mourant. Mais d'un autre côté, c'est un autre problème. C'est celui qui est en train d'aller à la fosse à cause de son péché. Et puis Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un pour payer pour toi et te délivrer de la fosse, te délivrer de la mort. Et maintenant, tu as trouvé une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie, et tu as un champ, et tu te réjouis de ce que tes péchés sont pardonnés. Qui est tout à fait l'image du salut. Et ça, c'est dans Job. Donc Dieu n'a pas changé de pensée. Dans le livre le plus ancien de la Bible, il nous donne le même message que dans les évangiles. Et le principe, c'est basé... Pourquoi c'était possible? Parce qu'il dit, celui qui nous enseigne la voie que nous devons suivre, eh bien, il a trouvé une rançon. L'ange qui enseigne la loi que l'on doit suivre a trouvé une rançon. Eh bien, il n'y en a pas d'autres mentionnés dans la Bible qui pourraient remplir ces conditions, sinon Jésus-Christ. Hein? Celui qui enseigne la voie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui a payé la rançon? Jésus-Christ a payé la rançon. Déjà, eh bien, on peut trouver ici, dans l'évangile de Job, on peut déjà trouver une première annonce, une préparation pour la venue de Christ. Et Jésus, justement, il dit, il parle de rançon, ce qu'on paye pour délivrer quelqu'un, ce qu'on paye pour racheter quelqu'un. Et Jésus a dit, je suis venu pour être une rançon pour plusieurs. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Jésus qui dit, moi, je suis venu, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, parce qu'il avait ça dans la gloire, hein, il avait tous les anges, il aurait pu faire appel aux anges quand il veut. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et servir, dans quel service? Eh bien, répondre à votre plus grand besoin, c'est de devenir votre rançon, de mettre en possibilité de vous racheter de vos péchés et de la mort. Donc, Jean et Jacques, eux, eh bien, parce que leur papa était le propriétaire d'une entreprise de pêche, et puis après, parmi les disciples, ils avaient toujours joui d'une place un peu privilégiée, hein, ils étaient parmi les trois premiers, eh bien, tout d'un coup, ça commence à monter dans leur tête, ils croient que ça y est, parce que nous, on a l'habitude de certains privilèges. Et puis avec Jésus, on a certains privilèges. Et donc dans la gloire, on sera des privilèges. ceux qui sont honorés sur terre ne sont pas forcément ceux qui seront le plus honorés dans le ciel. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui sont les plus vus, les plus entendus sur terre qui seront les plus honorés dans la gloire. Et ces disciples ont oublié qu'ils étaient des pécheurs. Eux, ils se voyaient comme quelqu'un de spécial et qui ont droit à des honneurs spéciaux. Mais Jésus dit, lui, il change de sujet, il dit non. N'oubliez pas, vous êtes des pécheurs et vous avez besoin d'être rachetés. Et il dit, je suis venu pour vous racheter. Et quand il nous a rachetés, il a payé un grand prix. Parce qu'il a payé de sa vie. Hein, vous savez, et maintenant nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu pour trois raisons. Il y a trois raisons pour lesquelles nous appartenons à Dieu. La première, c'est parce qu'il nous a créés. Nous sommes sa création. Deuxièmement, c'est parce que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Et troisièmement, parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Il l'a marqué. Il marque sa propriété. Le Saint-Esprit en nous, ça veut dire celui-là est à moi. Donc, nous sommes à Christ parce que nous avons été créés par Dieu. Nous sommes à Dieu parce que Christ nous a rachetés. Et nous sommes à Dieu parce que le Saint-Esprit nous a scellés de sa personne. Et vous avez toute la Trinité qui a agi ensemble pour marquer cette possession. Et même si nous l'oublions, Satan, il sait que nous appartenons à Dieu. C'est pour ça qu'il nous embête. Hein. Si on n'appartenait pas à Dieu, eh bien, il nous laisserait peut-être tranquille comme il laisse certains autres tranquilles. C'est comme des chrétiens qui dorment, qui font rien dans leur vie spirituelle, ben ils les laissent. Hein. Ils préfèrent les avoir comme ça. Parce que s'ils les réveillent et puis ils s'excitent et puis commencent à vouloir servir Dieu, ça, pour lui c'est un problème. Alors voilà, mais c'est à nous, hein, c'est à nous de comprendre que nous avons été rachetés. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit « Nous n'appartenons point à nous-mêmes ». Nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix de Jésus, du sang versé de Christ. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il a payé la rançon. Et donc il n'y a pas de place pour les ambitions personnelles dans le corps de Christ. Il dit... Non, c'est pas parce que tu viens le premier, c'est pas parce que tu bouscules les autres et puis tu demandes le premier, c'est pas... Non, c'est peut-être comme ça à la maison, c'est peut-être comme ça à l'école, c'est peut-être comme ça dans la vie, mais c'est pas comme ça dans la gloire céleste. Il a dit, non, c'est pas comme ça chez nous. Et nous, si on a quoi que ce soit, eh bien, nous l'avons pas grâce. Alors, bien sûr, il nous dit, en Philippiens 2, 5, il nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, pas les sentiments qui étaient chez Jean et Jacques, mais les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est donné, qui a voulu servir et qui s'est mis à la disposition de Dieu. Et donc, nous avons vu le contraste flagrant et nous avons vu ce service de Christ, ce service désintéressé où il n'a pas cherché pour lui, mais il a cherché notre bien. Et maintenant, nous voulons le concentrer de manière plus spécifique sur la rançon elle-même. Hein. La rançon elle-même, la rançon, et puis elle est suffisante. Hein. Vous êtes kidnappé, et ceux qui vous ont kidnappé, ils demandent 50 000 euros, et votre père, il peut que produire 5 000 euros, et ben, c'est pas assez. Même s'il peut produire 35 000 euros, c'est pas assez. Il faut produire tout, sinon on n'est pas libéré. Dieu a payé une rançon. C'est pas qu'il a payé beaucoup, mais ce qu'il a payé, c'était assez pour que nous puissions être rançonnés. Parce que on avait été kidnappé par le diable. Hein. Dieu nous a créés, mais le diable est venu et il a joué avec les pensées de nos pères, nos parents. Et puis, tout d'un coup, on est devenu, il nous a pris pour lui. Et le diable contrôle beaucoup de monde. Et maintenant, il dit à Dieu, il dit, écoute, ils sont en moi. Hein. Si tu les veux. Et alors, Jésus a dû payer la rançon. Alors, comme nous l'avons dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Dieu a payé un grand prix pour nous avoir. On était à lui, il nous a perdus, et il nous rachète. C'est pour ça qu'on parle de rachat ou de rédemption. C'est une pensée qu'on va développer plus par la suite. Et Pierre, 1 Pierre, hein, si vous regardez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et 19. Pierre dit la même chose. Je vais commencer au début de la phrase, donc avec le verset 17. Donc 1 Pierre chapitre 1 verset 17, il dit « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon les œuvres de chacun sans favoritisme, voilà, si vous prétendez que Dieu est votre autorité dans la vie, il dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le jour de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas avec des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Il dit, vous n'avez pas été rachetés à prix d'argent ou d'or ou quelque chose de précieux sur terre, mais vous avez été rachetés avec ce qui est précieux dans le ciel, le sang de Christ. Dieu, si on avait demandé une tonne d'or ou 100 tonnes d'or, c'est pareil, parce que lui, avec un mot, il peut le produire. Ça ne lui coûte pas cher. De l'argent, tout l'or du monde, c'est lui qui l'a créé avec sa parole. Mais il a payé avec ce qui lui a coûté. Et ce qui lui a coûté, ce n'était pas des choses matérielles qu'il peut créer avec une parole, mais c'est qu'il a donné son propre fils. C'est le sang précieux de Christ. Donc nous avons été rachetés à un grand prix. Et cela, je vous invite maintenant à regarder dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Et d'abord le verset 4, et puis ensuite je continuerai. 1 chapitre 2, verset 4. Donc nous avons cette première pensée. Bon, je vais lire 3 et 4, hein, c'est la même phrase. Il dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tout ce qui existe. Son désir, c'est que tous soient sauvés. Je souligne le mot « tous ». Et ensuite, il continue. Verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Le « tous » du verset 6, c'est le même « tous » que dans le verset 4. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et quand Jésus a payé la rançon, il a payé la rançon pour tous les hommes. Il a payé le prix. Alors vous allez dire, ben, s'il a payé pour tous sont sauvés. Attendez. Mais il a payé, première chose, il a payé assez pour que tous puissent être rachetés. Tous les hommes. Qui qu'ils soient. C'est pour ça qu'il peut dire, une invitation générale. Il peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. Il peut dire, je peux avec confiance sortir dans la rue et dire à n'importe qui, tu sais, Christ est mort pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il est, il s'est donné en rançon pour tous, n'importe lequel. Je peux aller faire visiter la prison des Baumettes et puis dire à n'importe lequel, Christ est mort pour toi. Je peux aller dans n'importe quel pays où il y a les pires des crimes et je peux dire à n'importe qui, Christ est mort pour toi. Je peux aller dans la plus belle des maisons de la Côte d'Azur et je trouve une personnage, je dis Christ est mort pour toi. Je peux aller dans un lieu où les gens se sont isolés de tout ce qui est du monde, un couvent, et je rentre là-dedans, il y a des gens qui prient du matin au soir et je dis Christ est mort pour toi. Ça reste vrai, c'est toujours vrai. Le prix que Jésus a payé est suffisant pour que tous les hommes, et n'importe quel homme, puissent être sauvés. Mais il faut accepter la rançon. Hein? Si je prends Giraud, là, et puis Giraud a été kidnappé, et puis on le demande pour lui, c'est 100 000 euros, au moins, hein, pour lui. Et il demande 100 000 euros pour le libérer. Après, supposons que moi j'ai de l'argent, hein, et je dis, je veux bien payer, je vais payer 100 000. Mais Giraud, il dit, non, moi je veux pas, et toi tu, non, je veux pas que tu payes, parce qu'après, toute ma vie, après, je serai endetté à toi, non, je me débrouille tout seul. Eh bien, il reste prisonnier. Mais s'il accepte, il est libéré. Mais c'est pareil avec Dieu. Dieu dit, moi je propose, j'avance la somme, j'avance le prix. Mais il faut que nous acceptions d'être rançonnés par lui. Et c'est là où certains ne vont pas bénéficier parce qu'ils ne l'acceptent pas. Parce qu'ils ne le demandent pas. Il faut le demander à Dieu. Dire, Dieu, j'accepte le prix que tu as payé. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour me racheter. C'est pas seulement pour que mes péchés soient pardonnés, mais c'est aussi le prix du rachat pour que je revienne à toi. Et j'accepte. Et il est important, et pour chacun d'entre nous, il faut un moment, hein, faut que je me souvienne, et si vous ne vous souvenez pas du moment, où c'est pas clair, où vous n'êtes pas sûr, eh bien faites-le maintenant. Dire, Dieu, je veux que tu me... J'accepte que tu me rançonnes, que tu payes le prix pour moi. Je veux être à toi. Et c'est pour ça que lorsque maintenant nous lisons à la fin de ce verset 45, hein, dans Marc 10, verset 45, vous n'avez peut-être pas remarqué, il dit, et a donné sa vie comme rançon pour beaucoup, ou pour plusieurs, peut-être vous avez dans votre Bible. Il n'a pas dit pour tous, il a dit pour beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il a payé pour tous, mais ça ne va être applicable qu'à certains qui l'acceptent, ceux qui le demandent. C'est pour ça qu'il y a cette notion. Oui, il paye pour tous, mais ça ne s'applique que pour ceux qui acceptent. Et il dit, et donner sa vie pour un rançon pour beaucoup. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque souvent, lorsque nous lisons le passage sur la scène, hein, lorsque nous faisons la Sainte Cène, dans Matthieu 26, regardez de plus près. Matthieu chapitre 26, parce que ce sont des passages où on entend tellement que finalement on n'entend plus. Hein, on a tellement entendu à chaque fois, et puis après on ne fait pas attention. Mais regardez Matthieu 26 et verset 28. Donc, je vais commencer au début de la phrase, donc verset 27. Donc Jésus, c'est la chambre haute, hein, c'est la table du Seigneur. Verset 27, il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, ou peut-être plusieurs chez vous. Il a dit, c'est le sang qui a été versé. Oui, il est mort pour tous, mais il n'y a que quelques-uns. Il y a beaucoup, mais pas tous, qui en bénéficient. Hein, il dit, et donc c'est pour ça que il y a des gens qui sont exclus de cette scène parce qu'ils n'ont pas encore accepté. Ils n'ont pas encore demandé que Dieu les rançonne. Hein, donc il y a cette notion de beaucoup. Je veux pousser encore un peu plus loin là. Regardez dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, 28. Hébreux 9, verset 28. Donc Hébreux 9, à partir du verset 23, justement, il nous parle de Jésus-Christ, ce sacrifice. Et il le compare, il fait la comparaison avec l'œuvre du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Et au verset, donc je commence au verset 27, le début de la phrase. Donc Hébreux 9, versets 27 et 28, il dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Il est mort pour que tous puissent être sauvés, mais finalement, il porte ceux de ceux qui croient. Hein, ça va être applicable. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on insiste tellement le fait qu'il faut demander. Demander que Dieu nous sauve. Sinon, c'est comme si on n'avait rien. Et c'est important. Donc, vous êtes là dans Hébreux et dans l'Épître aux Hébreux, gardez votre doigt là. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, une fois par an, il offrait un sacrifice, il nous dit, il offrait un sacrifice pour le péché du peuple. Mais ensuite, oui, il offrait le sacrifice pour le peuple, mais en fait, dans Hébreux, il nous dit, mais tous n'ont pas cru. Finalement, les seuls qui ont eu leur péché couvert et pardonné, ce sont ceux qui placer leur foi dans ce sacrifice. Il y avait ceux qui étaient là pour le rituel, et puis il y avait ceux qui y croyaient. Hein? Beaucoup de gens parlent de Christ mort sur la croix, mais c'est efficace seulement pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et c'est très important qu'on prenne cela. Donc, regardez, puisque vous êtes en Hébreu, Hébreu chapitre 3, Hébreu chapitre 3, et versets 16 à 19. Souverain sacrificateur, il offrait le sacrifice pour tout le peuple. Mais au verset 16, il nous dit, chapitre 3, verset 16, il nous dit « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu la voix, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. » Oui, il y avait chaque année, il y avait un sacrifice qui était offert pour le péché du peuple. Mais la majorité n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, et donc ils ne sont pas rentrés dans Canaan, ils ne sont jamais rentrés. Ils sont morts dans le désert. Et regardez, vous êtes là, regardez chapitre 4. Chapitre 4 et versets 2 et 3. Il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux ». Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'il ne trouva pas de foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Voilà. Il dit, oui, ça a été dit à tous, la proposition est faite à tous, mais si je ne crois pas, je n'entre pas dans le repos. Et dans l'Ancien Testament, le repos, c'était Canaan. Pour nous, le repos, c'est dans les lieux célestes, avec le Seigneur Jésus. Mais si je ne crois pas, Jésus a offert son sang, mais si je ne place pas foi, si je ne reçois pas ça pour moi-même, eh ben, je n'en bénéficie pas. Je n'ai rien. Je vous donne encore un passage, c'est dans Ésaïe 53, hein, on connaît bien ce passage aussi, Ésaïe 53, vous dites, ah oui, je connais. Ça parle de Christ et la souffrance de Christ. Et oui, et bien regardons les détails des mots. Ésaïe 53 et les versets 11 et 12. Il nous dit « À cause du travail de mon âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands et partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Oui, il est mort pour que tous puissent être sauvés. Mais en fait, les seuls qui vont bénéficier, c'est ceux qui ont placé foi en lui. C'est triste pour Dieu de devoir dire ça, mais c'est la réalité parce qu'il ne s'impose pas. Il laisse l'homme libre de choisir. C'est à nous de faire le choix et de vivre pour lui. C'est pas parce que je vais à l'église que tout d'un coup je suis sauvé. C'est pas parce que j'aime Jésus que je suis sauvé. Non, c'est parce que j'ai passé foi en son sacrifice. Sinon, j'ai rien. Et j'espère que chacun de nous ici, nous pouvons régler ça. Hein. Pâques vient bientôt. On va penser à la mort de Christ et la résurrection de Christ. Eh bien, tout ça est là. C'est de régler ça. Même avant Pâques, pour se dire, maintenant à Pâques, ça va être autre chose, parce que je sais que je suis sauvé. Je sais que Christ est mon Rédempteur. Et donc, l'invitation au salut est universelle, et la rançon a été suffisante, mais cette rançon n'est efficace que pour ceux qui acceptent d'être rançonnés par Dieu. Donc il faut quelque part que j'accepte. J'accepte l'œuvre de Christ. Donc pour l'accepter, il faut croire que c'est arrivé. Il faut croire que ça a été fait pour moi et que je peux en jouir. Et ça c'est après chacun qui décide tout seul dans son cœur. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Il n'y a que chacun pour lui-même. Et on n'a pas besoin d'avoir le bac pour comprendre ça. C'est pour chacun. À partir du moment où il comprend, il est en âge de recevoir. À partir du moment que je comprends ce principe, je peux le demander et j'en bénéficie, et c'est une fois pour toutes. Une fois qu'on est rançonné, on est libre et on peut partir. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est sérieux et c'est important pour chacun de nous de le comprendre. Et pour ceux qui l'ont déjà compris, c'est bien, le rappel est important pour savoir que pourquoi on ne développe pas une attitude comme Jean et Jacques, mais qu'on se souvienne, mais je ne suis qu'un pécheur racheté par le sang de Christ. C'est une grâce. Je n'ai pas des droits devant Dieu, c'est une grâce que j'ai devant Dieu. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous avons été rappelés d'une vérité extraordinaire. Elle est basique. Tout le message de l'Évangile s'appuie et n'existe grâce à cette croix qui a été dressée. Oui, c'est la méchanceté des hommes qui l'ont cloué, mais c'est l'amour de Dieu qui l'a fait rester sur la croix. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu, c'est ton amour pour nous qui t'a retenu sur la croix, afin que tu puisses nous racheter. Et Père, je prie pour chacun ici, pour ceux qui t'ont déjà reçu, que ce soit un rappel et un encouragement. Pour ceux qui ne t'ont pas reçu, qui comprennent l'importance de te recevoir et qu'ils soient sûrs. Et s'ils ne sont pas sûrs, Seigneur, rassure-les, qu'ils te demandent encore une fois. Et il vaut mieux te demander une fois de trop que ne pas te demander du tout. Père, Seigneur, agis dans chaque cœur ici ce matin. Et que nous puissions, ici, d'ici Pâques, que nous puissions tous être des rachetés. Rachetés par le sang de Christ, que nous faisions partie de ces plusieurs ou de ces beaucoup pour qui tu donnes la vie. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous avons parlé de de l'importance, cette attitude de service. Et donc, je vous propose le cantique 269, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. 269, premièrement, c'est de recevoir la vie nouvelle de lui. 289, excusez-moi. 289, et puis de le servir. Hein, puisque lui, il a tout fait, et le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Alors nous, ce qui sommes ses enfants, ses disciples, eh bien nous devons avoir cette même attitude, non pas là pour être servi par Dieu, mais pour le servir. 289, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service.